je vais vous parler du Maroc. Donc c'est un voyage que j'ai fait l'année dernière avec une copine d'enfance et on est parti de Ouarzazate à Merzouga. Donc c'était un peu le Merzouga Express en 15 jours. J'ai entendu parler pour la première fois de Merzouga par un ami qui est marocain et qui m'avait décrit cette ville et cette région du Maroc un peu comme un endroit rêvé au milieu du Sahara avec des dunes, le lever du soleil dans le Sahara. Et j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir y partir 3 mois après.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Camille raconte le Maroc. Avec elle, on a parlé de décors de films, de dromadaires et des bienfaits du voyage hors saison.
J'ai bourlingué à travers le monde. On est arrivé à Ouarzazate, au sud-est de Marrakech, et on a commencé par faire un petit crochet à Aïd Ben Haddou. On a décidé de ne pas s'arrêter à Ouarzazate parce que ce n'était pas une ville qui nous a tenté de premier abord. Aïd Ben Haddou, peut-être que ça ne vous dit rien de nom, mais pour ceux qui ont regardé Game of Thrones ou Ben Hur, en fait c'est une cité centenaire, comme une forteresse qui est au milieu d'un oued, donc d'une rivière asséchée. Et c'est que des maisons en pisé orange, fortifiées. Et normalement, c'est un endroit qui est extrêmement touristique. Et comme on est parti en plein été, il n'y avait absolument personne. On était vraiment seuls dans la ville. C'était vraiment extraordinaire. Parce qu'on nous a souvent dit, oh là là, vous partez au Maroc en plein été. Vous allez avoir beaucoup trop chaud, c'est pas le moment où il faut y aller. On a quand même décidé d'y aller en plein été. Et il s'est avéré que c'était parfait. En fait, on était les seuls touristes quasiment à chaque fois. Dans tous les hôtels, on était seuls. Tous les lieux touristiques, on était seuls. Et ça, franchement, je pense que de nos jours où on voyage beaucoup, et d'autant plus au Maroc, qui est une destination quand même assez touristique, c'était vraiment un luxe. Donc oui, il faisait chaud. Mais comme il pourrait faire très chaud chez nous en plein été ou très chaud en Espagne, après, on avait juste à adapter nos journées, quoi. On faisait pas grand-chose en début d'après-midi ou en pleine chaleur. Donc dans l'hôtel où on était le premier soir, c'était un peu le rêve. Enfin, on savait qu'il y avait 15 jours de liberté. En fait, on n'avait rien prévu. Notre seul objectif, c'était d'arriver à Merzouga et de repartir à Ouarzazate en 15 jours. Et de suivre la... Je crois que c'est la RN9. En fait, c'est une grande roue qui relie ces deux villes. Et après, on a fait plein de petits stops pour faire plusieurs vallées, des gorges, des petits treks, au fur et à mesure de nos 2 semaines. Et donc dans le premier hôtel qu'on a fait, donc on était seuls, et on a rencontré celui qui gérait l'hôtel, qui avait à peu près notre âge, qui s'appelait Youssef. On a beaucoup discuté avec lui, et le soir il nous a proposé qu'on boive des bières en cachette du patron, parce qu'il ne faut pas trop boire d'alcool. À un moment le patron est arrivé, et on a dû cacher nos bières sous la table, et continuer de faire semblant de jouer aux cartes. Donc c'était assez drôle pour une première nuit. Bon, on a repris le taxi du coup le lendemain matin de l'hôtel pour partir à notre prochaine étape. Donc on est passé par Ouarzazate et après on a pris un bus de tourisme jusqu'à la plus grosse ville à côté de la Vallée des Roses. Et on a fait une pause couscous pour le midi. Bon, après on aura appris qu'on a mangé du couscous pendant tous les jours de notre voyage au Maroc. C'était soit couscous, soit tagine. On ne peut pas être allergique au gluten. Et ce qui était drôle, c'est qu'on était au milieu du Maroc, sans touristes, vraiment c'était local. Et en fond sonore, on avait le Tour de France qui passait. Donc c'était assez drôle. Et ensuite, on a repris un taxi collectif cette fois, pas un bus de tourisme, pour nous déposer à l'hôtel dans la Vallée des Roses, à Boutarar exactement. Et le taxi collectif, c'était assez drôle aussi parce que c'est loin des taxis comme en France, enfin des bus comme en France, avec des horaires fixes. Là déjà, c'est dans une camionnette qui passe pas le contrôle technique en France. Et après, on part quand la camionnette est pleine. Et sur la route, on s'est arrêté plusieurs fois pour déposer des courses chez un marchand, reprendre un paquet de ciment... repartir déposer des poules, enfin c'était vraiment, c'était le Maroc quoi. Et après on est arrivé le soir dans notre hôtel,
on a fait la connaissance de Mustapha, qui sera notre guide pour les deux jours de trek qu'on fera le lendemain. Et on découvre la ville de Boutarar et la vallée des roses. Il y avait les trois couleurs pour moi qui représentent le Maroc. Le ciel parfaitement bleu, du vert à perte de vue le long de la rivière, et des falaises ocre. Et c'était vraiment magnifique. Et donc le lendemain, on est parti, on a chargé la voiture avec Mustapha. Et de Boutarar, on a fait une heure de route. Et là, on est arrivé, on se serait cru dans Voyage en terrain inconnu. C'est-à-dire qu'on était au milieu d'un village berbère, au milieu de rien du tout. Et avec les enfants qui couraient autour de la voiture quand on est arrivé. Et on est parti donc de ce village pour faire notre trek. Et on a rejoint notre deuxième guide pour ce trek qui s'appelle Jamal et qui était étudiant en histoire berbère. Et pendant toute la randonnée, du coup, on a eu plein d'anecdotes d'histoire berbère, d'histoire marocaine. Et avant de partir, on a dû charger la mule, donc avec la tente, le duvet, tout ce qui est la base pour partir en randonnée. Mais en plus de ça, on a dû mettre plein de coussins, on a mis la tagine, on a mis les épices, on a mis toutes les courses. Donc je pense que la rando a duré le premier jour 5 grosses heures, où on a marché les pieds dans l'eau dans la rivière avec des champs. C'était hyper luxuriant, enfin, il y avait plein de champs, plein de figuiers, plein de fleurs, enfin, c'était vraiment beau. Et au-dessus, on avait les falaises ocre. Enfin, c'était vraiment hors du temps avec la mule. C'était vraiment, on se serait vraiment cru dans un rendez-vous en terre inconnue. C'était fantastique. On est passé devant des mini-villages avec une petite école. Et Mustapha nous disait que les enfants, des fois, pouvaient faire jusqu'à plusieurs heures de marche par jour pour aller à l'école. Et on est arrivé enfin à notre campement, juste avant les gorges d'Achabou. Donc si vous y allez, si vous passez dans l'Atlas marocain, il faut vraiment les faire, parce que c'était vraiment magnifique et on se sent vraiment minuscule. Il y a un moment, les falaises sont tellement hautes et tellement étroites que en fait on peut toucher avec nos deux bras les deux pans de la falaise, et c'est vraiment fou. Les deux guides, donc Mustapha et Jamal, nous ont montré un escalier qui est centenaire pour arriver en haut des falaises des gorges d'Achabou. Et on avait une vue panoramique sur tout l'Atlas. Enfin, c'était fou. Et on a eu un cours de berbère et d'arabe en haut avec un morceau de charbon qui a été trouvé par terre. Donc on a appris les chiffres en arabe, comment écrire nos prénoms en berbère. C'était la meilleure classe du monde. On pouvait pas faire plus joli. Et donc on est rentré au campement ensuite, préparer la tagine avec Mustapha et Jamal en écoutant des playlists de rap marocain et de rap français à la lueur des bougies qu'on avait collées au rocher pour avoir un petit peu de lumière, parce qu'évidemment il n'y avait pas l'électricité. C'était vraiment une soirée hors du temps. Et le matin on s'est réveillé avec le bruit des mules qui passaient derrière. Et avant de repartir, on a fait la rencontre de Mohamed. C'est un berger qui travaille dans les environs où on a dormi et qui a une petite boutique et une toute petite maison juste à côté du campement où on était. Et il a absolument tenu à nous faire découvrir les coutumes berbères et les vêtements berbères. Donc il nous a mis deux robes, des foulards, des colliers comme ils avaient l'habitude. Et il a absolument tenu à nous mettre du col, parce que c'est la tradition chez eux. Et c'est pas du tout le col comme on a l'habitude en France, enfin, de maquillage. C'est comme un morceau de charbon qui nous a mis dans l'œil, et on en a pleuré pendant une heure à deux heures après. Et ça nous a bien fait rire lui aussi. Et après, il nous a invités à boire le thé et manger des gâteaux chez lui. C'est fou, en fait, à quel point les Marocains sont vraiment, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, sont vraiment bienveillants et ils étaient vraiment fiers en fait de nous faire découvrir leur culture. Et j'ai trouvé vraiment ça touchant en fait, parce que c'est pas du tout un aspect qu'on met en avant quand on parle du Maroc. C'est vraiment ce qui m'a marqué en fait, c'est vraiment la profonde gentillesse et l'humanité des Marocains. Après on est reparti donc avec notre mule surchargée, donc d'abord au village berbère et ensuite à l'hôtel. Et c'était le soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était l'Algérie qui jouait contre le Sénégal, il me semble. Et tous les Marocains étaient à fond derrière l'Algérie parce que c'était les voisins, que c'était l'Afrique du Nord, qu'il fallait qu'elle gagne. L'Algérie a gagné, donc c'était la fête. Et tout le monde, c'était vraiment génial de vivre ça là-bas. Et le lendemain, donc, on est reparti. Donc, c'était, on avait fini notre excursion. On avait décidé de partir à Tineshdad. C'est une ville à 1h30 de route à peu près de là où on était. En fait, on ne pouvait pas réserver de taxi. Donc, on s'est mis sur le bord de la route et on a attendu qu'un taxi collectif passe. Donc, les Marocains, c'est vraiment les rois du covoiturage et du stop. Enfin, on a eu de la chance, on n'a pas dû attendre trop longtemps avant de trouver notre taxi collectif. Et on est ensuite arrivé à Tineshdad. Donc, on voulait s'arrêter là-bas, surtout pour visiter le Ksar. C'est l'équivalent de nos châteaux forts. C'est une cité fortifiée et c'est vraiment impressionnant parce que c'est une ville entière construite entre quatre murailles avec une seule porte d'entrée et de sortie en cas de siège pour se défendre et pour loger tout le monde pendant les guerres de clans berbères. Le Ksar a été rénové à l'initiative d'architectes barcelonais parce qu'énormément de Marocains étaient partis de ce Ksar parce qu'il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante. Et pour faire revivre en fait cette ancienne cité, donc tout a été remis à neuf. On a pu visiter, parce qu'il y a un gros musée d'histoire berbère et une coopérative de femmes pour les employer et un peu les rendre actives hors du foyer. C'est tout un projet qui a été monté pour essayer de rendre une indépendance financière aux femmes par le travail. Si vous passez par Tineshdad, c'est vraiment un endroit vraiment super intéressant à visiter. Ensuite, sur la route, on a vu le musée des sources, ça s'appelle. Et c'est un musée posé au milieu de nulle part, à côté d'une énorme nationale. Et c'est un homme passionnant et passionné qui a voulu faire un musée sur l'histoire berbère. Et il vous fait la visite guidée. Encore une fois, nous, on était toutes seules. Et je pense qu'il a pris 2 ou 3 heures de son temps pour nous expliquer plein de coutumes berbères, ce qu'il avait fait dans sa vie. Donc si vous avez la chance de passer à côté du musée de la Lamimouna et de rencontrer Zaïd, c'est vraiment un des hommes qui m'a le plus marqué en termes d'humanité, pareil. Et ensuite, c'est la fameuse journée où on a atteint notre objectif de Merzouga. C'était un peu Pékin Express pour atteindre Merzouga parce qu'on a dû prendre 3 ou 4 taxis collectifs. En arrivant à Merzouga, on s'est retrouvé dans une tempête de sable à attendre un guide qui nous avait été conseillé par Mustapha, donc c'était celui qui avait fait le trek avec nous, qui nous avait dit « Ah, mais si vous allez à Merzouga, je vous donne le numéro de mon cousin, il viendra vous chercher en 4x4, et après, vous pourrez aller dormir dans le Sahara. » Donc on lui a dit oui, parce qu'on lui faisait entièrement confiance. Sauf qu'on est arrivé à Merzouga, dans une tempête de sable, et on attendait quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. On savait pas s'il allait vraiment venir, parce qu'on lui avait téléphoné juste une fois. Et au final, il est arrivé. Donc on est parti à dos de dromadaire pour rejoindre le campement quelque part dans l'immensité du désert. Au départ, on était super contente d'y aller à dos de dromadaire. Ça a vite tourné au calvaire parce que c'était extrêmement long, ça fait mal aux fesses, et il y avait une tempête de sable qui nous fouettait le visage. C'était vraiment très très long et on savait pas où on allait. On était juste toutes les deux avec juste le guide qui guidait nos deux dromadaires. Donc sans aucun autre touriste, sans personne à côté. Et on voit au fur et à mesure, on dépasse des gros campements de tentes. Donc on s'est dit, au début on était là, bon bah très bien, on dormira pas là où tous les touristes dorment, on s'éloigne un petit peu. Sauf que on a passé 2, 3, 4 gros campements. Et là la nuit commençait à tomber et on était seuls au milieu du désert avec quelqu'un qu'on connaissait quasiment pas à la frontière algérienne. Et on se disait mais... on savait plus trop où on allait, là. Et on s'était dit, bon, bah là, d'habitude, on prévoit pas grand-chose, mais là, c'est la seule fois où on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait de leur faire confiance. Et au final, après 3 longues heures, je pense, de balade à dos de dromadaire, on est arrivé devant notre campement où il y avait juste 6 tentes. C'était fou. Il y avait des tapis partout, des grandes plantes... Et on a eu droit à un dîner gastronomique au milieu du désert. Je pense que c'est la plus jolie chambre qu'on ait jamais eue de tout notre séjour au Maroc, en plein milieu du Sahara, avec une vraie douche, un vrai lavabo, du wifi. Au final, son cousin travaillait pour un hôtel de luxe. Donc sans le savoir, on s'est retrouvés dans quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était encore moins extraordinaire que le lendemain matin, quand on s'est réveillés... pour voir le lever de soleil dans le Sahara. Et ça, c'était vraiment un moment hors du temps. Il n'y avait pas un bruit, il y avait l'immensité des dunes, il faisait frais. On était toutes seules. Enfin, c'était émouvant de tellement... c'était vraiment un moment rare. On a marché dans le Sahara et on était que toutes les deux parce que tous les autres touristes étaient partis. Donc on était deux au milieu des dunes, il n'y avait aucun bruit. C'était vraiment une expérience inoubliable d'aller dans le Sahara. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. Mais donc l'après-midi, c'est la seule journée où on a décidé de prendre un hôtel touristique. Mais encore là, il n'y avait quasiment personne. Et on s'est refait amis avec des personnes qui travaillaient au sein de l'hôtel, qui ont absolument tenu à ce qu'on fasse une partie de petits chevaux qui a duré une éternité. En fait, on a quasiment sympathisé avec toutes les personnes de tous les endroits où on a pu dormir, parce qu'on était vraiment seuls à chaque fois. Encore une fois, là, les personnes de l'hôtel étaient vraiment bienveillantes et voulaient vraiment nous aider à ce qu'on ait le meilleur voyage possible, en nous donnant des conseils, en faisant jouer leur relation pour qu'on puisse rentrer dans un minibus touristique et climatisé au lieu qu'on prenne 4 taxis collectifs. C'est vraiment ce genre de détails et de rencontres qui facilitent un voyage et qui fait que c'est sans encombre. Et ils tenaient vraiment en fait à ce qu'on ait vraiment la meilleure expérience du Maroc possible. Et ils ont tout fait pour à chaque fois. Donc on est revenu sur nos pas à Tinrir, donc on voulait s'arrêter là-bas parce que c'était une des plus grandes palmeraies du Maroc, si ce n'est la plus grande. Et on a dormi dans une auberge de jeunesse. Au départ, on pensait y passer qu'une nuit, mais l'avantage de pas prévoir son voyage, c'est qu'on a pu y rester deux nuits. Et pareil, on était quasiment toutes seules, on a rencontré juste un couple de Néo-Zélandais et deux Françaises avec qui on s'est liés d'amitié. Et la première journée, donc on a visité la palmeraie et l'ancien Tinrir. Et on a fait la rencontre d'Adi. C'est un papy qui rénove une mosquée abandonnée dans le vieux Tinrir. Et au final, on a passé 2h30, voire 3h avec lui. Il nous a fait découvrir tout le vieux Tinrir abandonné. Il nous a fait rentrer dans des maisons qui étaient effondrées. Des mosquées qui étaient inutilisées. Il nous montrait l'ancienne maison du marabout. Il nous expliquait... Enfin, l'histoire de la ville, c'était fou. Et encore une fois, il a pris 3 heures de son temps pour nous expliquer à quel point il était fier d'être berbère, fier de s'occuper de ses projets. Et c'était vraiment touchant de voir à quel point il se tenait vraiment à partager l'histoire de son pays et son histoire familiale. Et là encore, en fait, on n'était que des filles et il s'est vraiment senti en confiance. Enfin, il nous a parlé de ses filles à lui, il en a une qui était pharmacienne. Et il disait que c'était très dur pour lui de laisser partir sa fille, qu'elle soit toute seule pour aller faire des grandes études. On a parlé du mariage. Et je pense qu'on nous a souvent dit « Ah, mais vous allez être deux filles au Maroc, toutes seules pendant 2 semaines. Vous n'avez pas peur ?» Et à chaque fois, je pense que d'être que deux filles aussi, ça facilite le dialogue. Les gens sont rapidement ouverts à nous. Et il venait régulièrement, même tout le temps, vers nous demander comment ça allait, si on avait besoin d'aide. Et tout le temps de façon bienveillante et jamais intéressée. Donc ça, c'était super plaisant. On est rentré à l'auberge et ensuite on s'est fait amis aussi avec... Il y avait peut-être 4 ou 5 mecs qui avaient à peu près notre âge aussi, qui géraient l'auberge de jeunesse. Et donc le soir, après le repas, on a fumé la chicha avec les mecs de l'auberge. On a discuté... pendant 2-3 heures, enfin, comme si une soirée en fait avec des Marocains, on a échangé plein de sujets, c'était vraiment génial. Et le lendemain, on est parti avec donc les Françaises et les Néo-Zélandais partir pour une petite balade, randonnée dans la palmeraie. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme on le pensait. En fait, les Néo-Zélandais ont proposé qu'on fasse une petite boucle dans la montagne, avant qu'on redescende dans la palmeraie. Sauf qu'il s'avère que cette petite boucle a duré 5 grosses heures, je pense. En plein soleil, parce qu'on était partis le matin, donc on s'est retrouvés à midi en haut d'une montagne. Il faisait super chaud. Il n'y avait pas un seul arbre, il n'y avait pas d'ombre du tout. Il faisait une chaleur, on se serait cru sur la lune, tellement c'était caillouteux et tout était orange à perte de vue, sans arbre. Et on a même croisé un couple de berbères nomades sous leur tente avec leurs chèvres. Enfin, je pense que j'ai jamais eu aussi soif de ma vie entière, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie entière, même dans le Sahara, c'était pas comme ça. Et à la fin, quand on a vu, on a entreaperçu la palmeraie en bas avec l'eau, mais j'ai cru que j'allais pleurer de bonheur tellement on en rêvait. C'est vraiment au Maroc que j'ai eu une prise de conscience, pas à 25 ans qu'on devrait se faire ce genre de constat, mais que l'eau c'est vraiment la vie et que eux souffrent énormément. Enfin, le propriétaire de l'auberge de jeunesse où on logeait nous a dit qu'il y a, eu plusieurs berbères, enfin nomades, qui sont morts en fait de la sécheresse qu'il y a eu ces dernières années parce que bah justement il n'y avait plus du tout d'eau. Et c'est là qu'on a pris conscience que c'était vraiment une ressource vitale et donc il fallait y faire très attention. Donc ça, c'était que la moitié de notre trajet. Après 5 heures de route, on s'est arrêté dans un petit restaurant manger du couscous. En repartant, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Il nous restait au moins 4h30 à pied à faire. Donc là, on a eu un petit coup de mou et il y a une petite mamie qui nous a ouvert sa maison en voyant qu'on était sous la pluie. Elle nous a accueillis chez elle le temps que la pluie se calme et elle nous a offert plein d'amandes fraîches qu'elle a récoltées en bas. Et on est reparti quand il faisait meilleur. Et on a fait du stop cette fois-ci dans un bus. On n'avait pas d'argent pour les payer et ils nous ont quand même accepté. Donc, donc c'était parfait. Là encore, ça faisait vraiment Pékin Express. On a couru avec nos sacs à dos dans le bus qu'on a vu qui s'était arrêté 300 mètres plus loin. Et on a continué notre randonnée, cette fois-ci dans la palmeraie. Et c'était vraiment fou le contraste entre le matin où on avait très très chaud, très soif, il n'y avait pas d'ombre. Et là, dans la palmeraie, où c'était extrêmement luxuriant, il y avait plein d'eau, plein de fruits, plein de palmiers, plein de champs. Et on est rentré à l'auberge après 9 grosses heures de marche, 10 heures. Et on a fait un hammam traditionnel marocain pour clôturer cette journée intense. Et ensuite, on est parti le lendemain pour la fin du voyage faire un dernier détour dans l'Atlas avec les gorges du Dadès. Et là encore, on a fait une rando avec le mec qui gérait, qui était propriétaire de l'hôtel. Enfin, qui gérait l'hôtel, en tout cas, la nuit où on dormait. Et encore une fois, on était seuls dedans. Il nous a emmenés manger chez sa cousine. C'était la meilleure omelette de ma vie dans un village berbère, pareil, perdu. Avec tous les enfants qui jouaient autour de nous, on était dans leur salon. Enfin, c'était vraiment... J'ai jamais vécu une expérience humaine aussi forte que là-bas et aussi vraie. Parce que c'était vraiment des gens qui étaient contents à chaque fois de nous voir et nous poser des questions et qui étaient fiers de nous montrer ce qu'ils savaient faire dans leur pays. Et ensuite, on est reparti pour la fin du voyage à Ouarzazate, où on a passé notre dernière nuit. Et on avait décidé d'aller faire un tour au souk. Et au souk, on a rencontré un marchand, Omar, qui nous a accueillis dans sa petite boutique pleine de bijoux et qui a voulu nous faire du thé à la menthe et qui nous a laissé peut-être 20 minutes toute seule au sein de sa boutique. On aurait cru deux princesses dans la caverne d'Ali Baba parce qu'il y avait des coffres en bois énormes remplis de colliers, bracelets... C'était fou, même la confiance qu'il nous accordait, parce qu'on était vraiment seuls dans un magasin où on aurait pu prendre plein de choses si on voulait. Et il est revenu, il nous a parlé pareil de ses enfants, de ses filles, de son rapport à ses filles. Et nous, il nous a demandé ce qu'on faisait comme études, comme métier. Il était vraiment très touchant. Et on est rentré dans notre hôtel qui était conseillé par le guide du Routard, mais... C'est le seul hôtel qui... C'était très atypique comme nuit, parce qu'on aurait dit qu'on était en prison avec... C'était un long couloir hyper sombre, avec des portes en fer de tous les côtés, et on aurait dit des geôles. Donc ça, c'était notre dernière nuit au Maroc, mais ça reflétait pas du tout tout le reste du voyage qu'on avait pu avoir. Et on est reparti le lendemain très tôt, et c'était une belle expérience.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Déjà parce que c'est le dernier gros voyage que j'ai pu faire et c'est surtout celui qui m'a le plus marqué humainement. Vraiment, j'ai été marquée de la gentillesse et de la bienveillance des Marocains. Et je voulais surtout aussi souligner le fait qu'on était deux filles, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et qu'on n'a jamais été embêtées, on n'a jamais eu un mot de travers, on s'est jamais senti en insécurité. Je voulais vraiment démonter ce cliché-là, j'espère que le message est passé. Après, peut-être qu'on a eu de la chance, je sais pas, mais On a tout le temps été vraiment très respectueuse envers nous, même plus que parfois quand on passe juste une journée à Paris. Nous, on a passé 15 jours là-bas et on n'a jamais rien eu. On s'est jamais senti en insécurité.
Pour se parler de tes voyages généralement, mm-hmm. et hors de ce voyage en particulier, mm-hmm. à quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place justement ?
Alors je laisse de manière générale beaucoup de place à l'improvisation. C'est-à-dire que je prépare vraiment pas grand-chose, si ce n'est soit les nuits d'hôtel qu'on va dormir. Et après, j'aime bien avoir... j'aime pas avoir un programme déjà pré-fait avec tel jour on fait ça, le lendemain on fait ça. Je préfère voir au jour le jour, voir ce que j'ai envie de faire, voir en fonction des rencontres que tu peux faire aussi. Et là, par exemple, au Maroc, d'avoir une souplesse d'organisation, ça nous a permis de passer plusieurs jours là où on pensait en passer qu'une seule. Et j'aurais vraiment été très frustrée de passer qu'une nuit à Tinrir si on avait vraiment planifié un voyage de bout en bout.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Un jeu de cartes, je pense. J'ai tendance à oublier souvent des affaires, mais je pense que le jeu de cartes est tout le temps dans mon sac.
Pour sociabiliser, c'est pas mal.
Ouais. Ouais, c'est vrai, ça... Les gens viennent souvent vers nous, soit quand on joue, quand on dessine. Enfin, les gens viennent vers nous pour regarder le jeu, pour regarder ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un bon moyen de sociabiliser.
Justement, en parlant de rencontres, est-ce que au cours de tes voyages, il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué ?
Il y en a beaucoup qui m'ont marqué au Maroc. Il y a d'abord Mustapha et Jamal pendant le trek des 2 jours. C'est 2 très bons amis qu'on s'est fait et je suis toujours en contact avec eux. Et ensuite, il y a Zaïd et Adi. En fait, c'est 2... Même Omar, en fait, tous. En fait, à chaque fois, on a vraiment eu des discussions profondes avec eux et vraiment super intéressantes. Ils étaient vraiment touchants, ils avaient tous leur manière d'être et ils m'ont tous touchée d'une façon ou d'une autre.
Tu cites que des noms d'hommes. Est-ce que tu as pu rencontrer et discuter avec des femmes au Maroc ?
Eh ben, quasiment jamais. En fait, on a quasiment jamais croisé de femme. Ou alors la petite mamie qu'on a vue dans la randonnée justement à Tinrir qui nous a hébergés. Mais elle parlait ni anglais ni français. Donc c'était un peu dur de communiquer avec elle. Mais c'est vrai qu'en fait les femmes étaient extrêmement en retrait de la société. Enfin, à chaque fois c'était les hommes qui venaient vers nous, c'était les hommes qui nous faisaient visiter. Ils nous considéraient vraiment, ils nous respectaient, c'est indéniable, mais c'est vrai qu'en fait, il y avait très peu de femmes, très peu de place laissée à la femme en général dans notre voyage.
D'ailleurs, j'en profite pour te demander, est-ce que, parce que tu cites beaucoup les Berbères et les Marocains, est-ce que tu peux très rapidement nous dire un peu quelle est la différence, s'il y en a une ?
Alors, je vais essayer de le faire sans... Je voudrais froisser personne, mais... en fait, les Berbères, c'est une culture différente de la culture arabe et marocaine. Donc du coup, ils n'ont pas la même culture. Enfin, il y a quelques différences. Ils n'ont pas la même langue non plus. Il y a une langue différente, le Berbère, avec un alphabet différent de l'arabe. Et voilà.
Pour revenir sur tes voyages et ta manière de les raconter, est-ce que tu as un médium préféré et comment tu racontes et tu documentes tes voyages ?
Avant de partir en voyage, j'aime bien me renseigner sur un peu l'histoire du pays, la politique actuelle du pays, savoir un peu où on met les pieds. Après, sur place, j'ai tendance à faire des photos, mais pas non plus tant que ça. Je préfère les vidéos parce que je préfère, une fois que je suis rentrée de voyage, je préfère regarder des vidéos parce que je trouve ça plus vivant et on capte plus l'ambiance que des jolies photos. Après, j'aime bien écrire mes voyages une fois que je suis rentrée. Faudrait que je le fasse pendant le voyage, ce serait plus logique. Mais je le fais après, ça permet de se rappeler de plein de souvenirs et ça permet de revivre, je trouve, une deuxième fois son voyage avec un petit peu plus de recul aussi.
Quels sont tes projets, des endroits que tu as absolument envie de découvrir à plus ou moins long terme ?
Alors il y a un pays que j'ai très envie de découvrir, c'est l'Algérie, depuis tout le temps en fait. Je suis fascinée par ce pays. Et après il y a une ville qui me fait rêver, c'est Carthagène. En Colombie. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'aimerais vraiment y aller. Et après j'aimerais bien aussi visiter tout ce qui est Kazakhstan, Ouzbékistan.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc t'as un petit espace qui t'est réservé où tu peux partager une recommandation, une anecdote, une pensée, c'est à toi.
Concernant le mot de la fin, j'aimerais dire que plus je voyage à l'étranger, plus j'apprends à aimer la France et à la regarder d'un œil différent, dans le sens où je m'extasie souvent à l'étranger devant des paysages qu'on pourrait nous-mêmes avoir en France, mais... que des paysages que je prends peut-être comme acquis ou alors où je fais pas forcément attention. Et je trouve que plus on voyage, plus j'ai un regard neuf en tout cas sur les paysages qui m'entourent.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.